أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique, mes chers frères et sœurs. Comme vous le savez, nous sommes arrivés sur la question de l'imamat, parlant réellement de l'imam. Et on a dit que l'imam doit être nommé par Allah subhanahu wa ta'ala directement, soit par l'entremise ou par l'intermédiaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou l'imam doit être nommé par un autre imam qui lui a précédé dans cette fonction-là. Donc, en réalité, lorsque vous essayez de voir tous ces éléments, et nous avons dit que l'imam, il fait partie des caractéristiques de l'imam, les points distinctifs de l'imam des autres, c'est que nous avons parlé de son infaillibilité. Nous avons dit que l'imam, il doit être infaillible, seulement pas pour lui-même, mais aussi sauver l'islam, et que l'islam puisse garder sain et sauf. Et c'est ce que nous avons constaté dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était à la fois le prophète, il était à la fois le gardien de l'enseignement spirituel et révélateur. Et effectivement, tous ces éléments, il avait cette responsabilité d'éduquer, de protéger l'islam et aussi d'aider réellement les gens à mieux appliquer la religion musulmane. Et il était aussi celui-là même qui essayait d'élever les équivoques qui se présentaient réellement dans la foi au sein de la société musulmane. C'est lui qui était le garanti principal de pouvoir faire disparaître tous ces doutes qui s'installaient dans le cœur des musulmans. Donc effectivement, l'imam aussi, il est dans ce même itinéraire, je vais parler, dans le même sens, il a aussi les fonctions qui vont dans le même sens que les fonctions d'un prophète. Seulement que l'imam, nous avons dit que l'imam seulement ne reçoit pas de révélations, et aussi le prophète, il reçoit les révélations, il n'a pas un livre, aussi il diffuse effectivement la révélation. Il y a aussi certaines choses qui sont particulières à lui-même étant bien un prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné ces éléments. Lorsqu'on rentre dans ces contres concernant les femmes, le nombre de femmes qu'il a pu quand même si on peut s'exprimer ainsi, qu'il a pu effectivement accorder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de marier, et aussi la prière nocturne qui était aussi obligatoire, mais pour les autres, les imams, n'est pas obligatoire, mais l'imam ne se voit pas en train de négliger ses prières la nuit, effectivement, salat al-layl, et c'est ce qui est plus important, la prière nocturne. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé de cela. Il est important que nous puissions revenir alors pour dire que l'imam, en réalité, lorsqu'il a cette infaillibilité ne fait pas de lui un robot, mais plutôt le fait de lui réellement quelqu'un qui puisse réellement garantir la foi des musulmans et aussi donner des enseignements qui est dépouillé réellement de tout un doute, et des équivoques. Donc les imams ont ce genre de rôle, mes chers frères et sœurs, et vous pouvez comprendre qu'un imam, il n'est pas seulement aussi un être humain aussi très simple, il est choisi par Dieu, il profite réellement aussi de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science du prophète, et c'est ce que le prophète nous a dit dans le hadith connu de tous, que ce soit sunnite ou chiite. Il a dit ceci, que « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha »« Je suis la cité de la connaissance et Ali est la porte » alayhimu salam. Et effectivement, chers frères et sœurs, nous avons parlé aussi de la science réellement de l'imam. Et aussi, nous avons dit que la science de l'imam, lorsque l'imam a cette science-là, cette infaillibilité, est-ce que cette infaillibilité fait de lui comme un robot, quelqu'un qui est obligé de passer par là, de ne pas aussi commettre réellement des péchés? Il n'a pas cette envie qui puisse l'attirer réellement à commettre le péché. Donc c'est comme si Allah dans sa création l'avait créé sans cette envie que les autres ont, et qui les attire chaque jour vers le péché. Et j'allais vous dire que nous avons essayé de répondre à cette question, que l'imam, oui, effectivement, il a une science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé, donné comme étant bien un don. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette science-là, mais aussi la science ne fait pas de lui réellement quelqu'un robotisé, si je peux m'exprimer ainsi, qui ne profite pas réellement, qui ne fait pas l'usage de sa volonté d'agir ou de ne pas agir. Donc j'allais vous dire que non, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est plutôt que la science vient pour éclaircir mieux les rôles et déterminer effectivement les enseignements et les prescriptions de l'islam. Et d'autres choses, la science, ce n'est pas cela, il y a aussi d'autres choses qui viennent en ligne de compte concernant la science de l'imam. Nous avons dit que la science de l'imam, cette science, elle est différente réellement de notre science, la science que nous avons sur cette terre en tant que des êtres humains aussi, qui n'ont pas été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala ni pour la prophétie ni pour l'imamat. Nous avons dit qu'effectivement, c'est tout à fait un don de Dieu et aussi un don de Dieu, et vraiment, cette science ne connaît aucunement d'erreur dans l'usage et aussi, effectivement, cette science est très ample, donc ça peut englober réellement toute chose qui est liée à ces bas mondes. Donc, la question qui est sortie, la science de l'imam est liée réellement aux sciences industrielles technologiques de nos jours. Et donc, nous avons essayé de répondre. La science des imams, c'est une science qui vient gérer le monde et aussi avec des lois canoniques, avec la charia pour pouvoir gérer le monde. L'imam n'a pas besoin tellement de cette science, mais si le besoin s'installe et qu'il y a une divergence sur cette question, l'imam il est prêt réellement à donner une réponse. Il a aussi cette science, mais il utilise de plus ce côté spirituel, ce côté religieux que le côté industriel, parce que les gens ont essayé de détacher l'industrie aujourd'hui de la religion. Ils ont détaché la science aujourd'hui de la religion, alors que la science est là à côté de la religion. Awaluddin ma'rifatu. C'est-à-dire que la première religion, le premier pas dans la religion, ce n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu. Qui parle de la connaissance de Dieu? Parle de la connaissance de ce bas monde, de l'environnement, de l'origine, et lui-même sa propre création, et c'est la créature qui l'entoure dans son environnement, etc., etc. Et c'est ce que vous allez essayer de constater, vous avez constaté dans le Saint-Coran, lorsque le Coran nous dit, le Coran nous interpelle, réellement, lorsqu'il regarde, il dit que, il nous interpelle réellement à regarder, à contempler la création du chameau. Vous voyez? Il a l'ibili, afala yamburuna, il a l'ibili keifa khulikat. Donc, à contempler le chameau, et à partir du chameau, et nous allons arriver réellement à celui-là même qui a créé le chameau, le créateur de ce chameau-là. Et c'est ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs. Dans tout cela, et cette science réellement est une science très vaste, liée d'abord aux lois et à charia, et aussi la politique de la gestion de la société, et aussi cette gestion aussi couronnée par la connaissance de Dieu et l'appui divin. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de regarder ces éléments, donc, il est important que nous puissions arriver. Nous avons essayé de signifier réellement, mes chers frères et sœurs, dans ce cadre-là, pour dire qu'il y a aussi des preuves aussi très concrètes dans les hadiths qui prouvent réellement la science de l'imam, que l'imam, la science de l'imam, la science n'est pas aussi une science quelconque. Et effectivement, c'est une science, nous sommes d'accord que c'est une science réellement qui n'a rien à voir avec la science de nos jours que nous avons. C'est « fawqa al-ada » comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'au-delà de l'habitude humaine. Et il y a aussi, lorsque vous regardez, pour dire que c'est au-delà de l'habitude humaine, vous allez regarder que je viens de vous citer ce hadith tantôt, « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha ». Donc la connaissance et la science du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si la porte est Imam Ali alayhi sallam, et la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez voir que la science que les imams détiennent, ce sont des sciences réellement qui sont au-delà de l'habitude et la compréhension et l'entendement de l'être humain. Il y a aussi le hadith saqalain, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a essayé de mettre le hadith, sa famille, sa sainte famille, le prophète a essayé de mettre sa sainte famille à côté du Coran, comme si sa famille égalisait le Coran Et réellement, si vous voulez, c'est ce que Imam Ali alayhi salam, il a dit, Ana al-Qur'an an-natiq. Je suis le Coran qui parle réellement. Donc, effectivement, le Coran et la Hétra et la famille du prophète, il n'y a aucune différence. Et si vous voulez connaître la famille du prophète, le prophète l'a dit dans les hadiths, que ce soit dans le livre sunnite et le livre chiite, a été dit aux frères musulmans qui sont les Ahlul Bayt, qui sont la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est important, mes chers frères, une fois que nous sommes arrivés là, il y a une question alors qui se pose, si la connaissance réelle de l'imam est au-delà de l'entendement de l'être humain, alors donc nous voulons dire quelque part que l'imam, il connaît aussi les choses cachées, les choses invisibles, effectivement. Et c'est ce que nous avons ici, « Alimul ghaib wa shahada », c'est-à-dire que nous avons réellement des choses qui ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont visibles et les qui sont, ne sont pas visibles. Et le verset que je viens de citer, le Coran dit « Alimul ghaib wa shahada » que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le connaisseur de ce qui est apparent et ce qui est caché. Donc, effectivement, et vous allez trouver aussi dans le Saint-Coran « Alladina yu'minuna bil ghaib » Et ceux qui aussi, le Coran est une guidance pour ceux qui croient aux choses cachées. Donc, les choses cachées ici, lorsque les commentateurs du Coran sont arrivés à ces choses cachées, il y a eu plusieurs commentaires sur cette question. Il y en a qui ont parlé qu'il s'agit du jour de la résurrection. Et il y en a même qui sont allés au-delà de ça, que c'est l'imam qui est caché, qui est dans l'occultation. Lui, on veut essayer d'appliquer, compte tenu de la situation ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, effectivement, lorsque vous essayez aussi de voir réellement, vous allez trouver qu'il y a plusieurs sortes réellement de la connaissance invisible, lorsqu'on peut s'exprimer ainsi. Il y a aussi ces caractères réellement, après avoir ça donné à Allah subhanahu wa ta'ala, respecter les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela peut vous faire profiter réellement de cette lumière que Dieu va essayer de déposer sur votre cœur et qui puisse être réellement comme une torche pour voir les choses invisibles. Il y a ce côté, il y a aussi ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne au prophète, et il y a cela qui puisse également être aussi un moyen de pouvoir voir les choses invisibles. Donc en réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez comprendre les premières choses ici, de l'autre côté, lorsqu'on parle de la lumière qui est déposée sur le cœur du croyant, qui lui permet réellement de voir les choses cachées. Mes chers, c'est ce qu'on a dit, al-shuhud al-batini. Et c'est ce qui est là, lorsque vous vous donnez à la lumière, qui est la lumière, l'essence de la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu vous dépose un dépôt, il vous donne un dépôt de lumière qui est posé sur votre cœur et qui puisse être réellement ôter réellement ce voile qui est entre nous et le monde invisible, qu'on puisse voir réellement ce monde invisible. Cette porte est ouverte à tout le monde, pas seulement qu'au prophète. Si vous travaillez votre esprit, vous respectez les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi vous allez essayer des fois de faire un effort, ce qu'on a dit, le djihad, le akbar, c'est-à-dire que le djihad, le grand djihad, ce n'est rien d'autre que de travailler son esprit et essayer de dompter et de contrôler son esprit et essayer de l'amener vers la volonté de Dieu, que ça, il y a cet esprit et la volonté de l'être humain s'accorde avec la volonté divine. Donc, regardez le don d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne aux prophètes, aux imams, et vous allez trouver que le prophète, il a même dit dans le hadith, il dit, « Ya Amar, taqtulu qafi'atul baghiya. » Il dit que, « Amar, je te préviens que le groupe pervers, tu seras assassiné par le groupe pervers. » Et c'est ce que nous avons constaté dans le Coran de Harb al-Sifin, Amar a été assassiné. Et effectivement, lorsque vous essayez de voir cela, il est important que nous puissions réellement voir, je vais parler de la science du prophète et la science aussi des imams, et vous pouvez comprendre que il est aussi le monde caché de l'autre côté. Vous pouvez voir qul la aqul lakum inda khaza'inillahi wa la a'lamu al-ghayb. Vous voyez, réellement, lorsque vous essayez de voir, le prophète, il a essayé de dire que oui, lui, il ne connaît pas les choses invisibles. Et c'est ce qui est la différence réelle entre nous et certaines personnes lorsqu'on veut parler des wahhabites, les sunnites, en particulier les wahhabites. Les wahhabites, ils disent que personne n'a cette capacité de connaître le monde invisible. Et nous disons non. C'est vrai que le prophète il dit « Wala a'lamul ghaib » et je ne connais point les choses invisibles. Vous voyez, je ne connais pas le monde caché, je n'ai pas cette connaissance du monde caché. Donc effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala est seulement « a'lamul ghaib wa shahada » ce que nous avons essayé de citer dans le hadith, dans le verset coranique. Et effectivement, vous allez dire « Fala yirzir ala ghaibihi illa man ittada min rasouli » et dit donc cela, ils ont essayé d'ignorer ce verset coranique. Ce verset coranique, il dit qu'il ne donne pas cette capacité à une autre personne réellement, vraiment, de découvrir ce monde invisible, sauf que lorsqu'il donne la volonté, il donne sa volonté et son accord au prophète. Donc, en réalité, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il donne son accord au prophète pour pouvoir voir le monde caché et effectivement. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de voir tous ces éléments, vous allez essayer de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que alimul ghaib wa shahada. Quelque part, vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui connaît le monde visible, le monde apparent et le monde caché. Donc, c'est lui qui connaît le monde visible et invisible. Et de l'autre côté, il dit que il donne cette capacité au prophète réellement par la révélation de connaître le monde. Quoi? Le monde invisible. Donc le monde, ça fait partie du monde invisible. L'ange Gabriel, ça fait partie du monde invisible. Lorsqu'on vous parle de la montée du ciel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Isra ou le Mi'raj, etc., ça fait partie du monde invisible. Et le prophète l'a vu, il a senti, il a vécu dans ce monde invisible. Et par l'intermédiaire, ou par effectivement par l'intermédiaire de la révélation par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, lorsqu'il donne son accord à quelqu'un, quelle que soit cette personne, si vous préparez réellement votre esprit, qu'on appelle le djihad al-akbar, respectant les prescriptions de Dieu, et vous verrez après que, mes chers frères et sœurs, que Dieu va vous déposer une lumière, il va déposer une lumière sur votre cœur qui pourrait vraiment éclaircir le chemin et ôter réellement, mes chers frères et sœurs, la barrière qui est entre nous et le monde invisible. Donc cela est très important, mes chers frères et sœurs. Donc il ne faudrait pas voir le monde invisible comme étant bien rattaché seulement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Dieu donne son accord, nous pouvons essayer de témoigner ce monde visible. Et cela s'est passé avec les autres savants et les grands savants, et ceux-là même qui se sont donnés à Allah subhanahu wa ta'ala, et jusqu'à nos jours, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions signifier cela. Donc, en réalité, lorsqu'on veut parler réellement de ce monde invisible, il y a nous sommes entre deux poids. Lorsqu'on parle du monde invisible, c'est avec les savants, comme on appelle, c'est une discussion, un exposé qui se passe réellement, mes chers frères et sœurs, dans le cadre de la religion, entre les musulmans eux-mêmes, ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas, ils discutent avec les versets et autres. Il y en a d'autres qui se passent en dehors, et ceux qui ne sont pas musulmans, en face de l'islam, essayent de dire que oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, ne pouvait pas voir le monde invisible, tel que lorsque nous étions les philosophes positivistes, lorsque vous essayez de voir, et vous allez trouver que et il croit seulement qu'à tout ce qui est matériel et tout ce qu'on peut expérimenter matériellement, et c'est ce qui est la science. Et nous avons essayé, et les gens ont essayé, d'autres savants ont essayé réellement de contester cela en disant que la règle, la doctrine de la causalité ne fait pas partie des choses aussi très aussi matérielles, mais seulement c'est intellectuel et qui va avec l'intelligence de l'être humain. Donc vous allez trouver que le ghaïb et l'invisible que nous sommes en train de poser, ce n'est rien d'autre que nos frères Ahlul Sunnah, surtout les wahhabites qui refusent catégoriquement cette science-là que Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder au prophète, peut accorder réellement à ses élus. Et cela est possible, mes chers frères et sœurs. Lorsque vous regardez tous ces éléments, et vous allez dire tout de suite que oui, il est possible que l'être humain puisse voir le monde caché, puissent voir le monde caché. Et c'est possible, mes chers frères et sœurs. Il ne faudrait pas que ça soit tout de suite annié. Oui, lorsque vous prenez un verset, vous allez trouver que Alimul Ghaibi wa Shahada, il est seulement celui-là même qui connaît le monde visible et le monde invisible. Lorsque vous regardez ce verset, sans pourtant faire attention, sans pourtant accorder, mettre ces deux autres versets l'un à côté de l'autre, et vous ne pouvez pas comprendre réellement le message que Dieu veut réellement donner. Et c'est ce qui est le problème. La compréhension apparente des versets s'arrête seulement sur le côté littéraire et aussi de ne pas mettre le Coran, les versets l'un à côté de l'autre. Et c'est ce que le Coran n'est rien d'autre que Imam Ali alayhi salam, il nous dit ceci que il dit que al-ayat tufassir ba'daha ba'da. Il dit ba'daha ba'da ayat tufassir ba'daha ba'da. Et il dit que certains versets expliquent l'autre. Vous voyez? Donc lorsque vous lisez le Coran, il faut lire le Coran avec cette intelligence là. C'est-à-dire que mettre les versets l'un à côté de l'autre, et c'est ce qui va nous permettre réellement de clarifier réellement le point, notre point de recherche concernant un sujet bien donné. Tous les sujets qui se trouvent dans le Saint-Coran, voilà comment ils doivent être traités réellement en mettant le verset l'un à côté de l'autre. C'est pour cette raison que vous allez trouver que la science du Coran, elle est très complexe, et alhamdoulilah que nous avons aujourd'hui des universités, de la part que ce soit sunnite et chiite, que les gens font des efforts pour pouvoir mieux comprendre le Coran, mais il ne faudrait pas s'arrêter seulement que sur le côté apparent du Coran, et c'est très dangereux. Ça, lorsque vous vous arrêtez sur le côté apparent du Coran, cela fait réellement que vous puissiez produire un résultat non adéquat, un résultat qui ne pourrait pas servir réellement, et un résultat réellement qui va essayer de provoquer encore plusieurs questions sans réponse. Mais alors que lorsque vous utilisez votre intelligence et mettre le Coran, le verset l'un à côté de l'autre, vous allez essayer de voir, mes chers frères et sœurs, que le Coran s'explique et tout ce qui est là, c'est plein de sagesse, le verset qui est là, qui est global, et l'autre vient détailler, et l'autre, ça fait partie la démarche de l'enseignement que le Coran nous donne. Donc, mes chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention à notre exposé. Et Inch'Allah, nous allons essayer de continuer sur ce sujet, l'imamah dans le Saint-Coran et l'imamah dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs. Donc il est important que nous puissions réellement revenir à cette question pour pouvoir mieux éclaircir les téléspectateurs. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.